Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1057, en ce samedi 13 avril 2019. On vient de démarrer avec le nouveau disque coup de cœur du mois. Il s'agit de Cotton Bellies, l'album qui s'appelle Missy, qui est en train de sortir. Merci à Bruno Labbati et Sophie Louvet qui me l'ont envoyé. Et puis merci d'avance à Yann Malek, qui sera l'invité de cette deuxième heure. Yann Malek, qui est le leader de Cotton Bellies, qui répondra à toutes mes questions et également aux vôtres. Si vous êtes connecté sur le Facebook Sweet Home Chicago, vous pouvez également interagir, puisque cette émission est exclusivement en direct. Voilà, en première heure, on aura, pour fêter les 50 ans de Soulbag, et oui déjà, on aura son patron actuel qui s'appelle Nicolas Ternier, et puis on évoquera abondamment bien sûr les souvenirs qui ont émaillé ce demi-siècle, qu'on n'a pas tous connu, hein, Nicolas, forcément, mais que Jacques Perrin avait initié en 1968, Jacques Perrin qui fait toujours partie de l'équipe de Soulbag. Avec Nicolas Ternier, on parlera du passé, du présent et de l'avenir de Soulbag, voilà, ce magazine que vous aimez tous depuis décembre 1968, figurez-vous. Il y avait deux exemplaires de ce magazine à gagner sur le site internet de l'émission, blues.radio666.com. Ils ont été raflés déjà, ça y est, ben oui, le tirage au sort a lieu ce matin. Il y avait également deux exemplaires du CD de Rob McCulloch. Ben c'est pareil, il n'y en a plus un seul, puisque ça a été gagné ce matin aussi. Mais si vous allez sur la page cadeau, vous pourrez gagner deux exemplaires du numéro 92 de Blues Magazine, également des places de concert pour aller applaudir Steve Hill et Fred Chapelier Plays Peter Green le samedi 27 avril à la Traverse à Cléon. Au même endroit, il y a également des places de concert pour le Spring Break Blues avec Jesus Vault, Baked Beans and the Others. Ce sera pour le samedi 11 mai. Et puis depuis ce matin, il y a le nouvel album de Big Daddy Wilson à gagner, Deep in My Soul, chez Roof Records, ainsi que deux places de concert au Souboc à Coville pour Rosedale le samedi 25 mai. Voilà, vous allez sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Le prochain concert blues au Souboc, ce sera le samedi 27 avril avec Sean Booker, également le guitariste John Del Toro Richardson. Voici un extrait de l'album de John Del Toro Richardson qui s'appelle Tango Blues. Voilà un petit aperçu du talent de John Del Toro Richardson, l'album Tango Blues qu'il avait sorti en 2015. Voilà, avec 13 titres de pas tout à fait de la même veine tous, parce qu'il y a des choses très Tex-Mex dans ce disque. John Del Toro Richardson avec la chanteuse de l'Ohio, Sean Booker. Ce sera en concert samedi 27 avril, Subok à Coville. Et puis la veille, ils seront présents au festival de l'ami Patrick Lecacheur à Band Blues. Voilà, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps dans la radio. On poursuit avec ce disque qui a été gagné. Ça y est, c'est plus la peine d'appeler, c'est plus la peine de cliquer. Non, ça c'est le nouveau, qui arrive. Big Daddy Wilson, Deep in My Soul. Voilà, je viens de le mettre ce matin. Un album super produit par Jim Gaines, enregistré pour le compte de Roof Records. J'ai vraiment hésité avant de vous proposer l'un des titres, mais bon, il faut bien choisir. Donc voici ce Hold On To Your Love. Voici la voix suave de Monsieur Big Daddy Wilson. Un garçon né en 1963, encore plus fréquentable.
Baby, so do I. True love is hard to find. Jealous people, they keep talking loud, 'cause we got something they will never have. Don't let their voices drive you crazy. Worrying about something others might say. You love me, girl, I love you. Hold on tight now, baby, that's all that we can do. And don't let their voices drive you crazy. Someone to love. You fit to me just like a hand in a glove. Since I met you, baby, I'm not the same. My friends tell me, they say, boy, now you've done changed. But don't let their voices drive you crazy.
Voilà, ce disque est à gagner sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Et puis celui qui arrive, ben là c'est déjà trop tard, mais on va y revenir quand même, parce qu'on avait fait venir Marc Mitou il y a quelques semaines pour en parler. Il y avait également Julien Boisseau au téléphone, donc respectivement batteur et bassiste sur cet album. Il y a également Xavier, l'harmoniciste. Donc Xavier et Julien étant des musiciens de Jesus Vault et Marc étant un musicien des Barn Guys, et tous ces gens-là pour accompagner M. Rab McCulloch, l'Irlandais, au Jazz Club Étoile, c'était à l'automne dernier. Je pense qu'une nouvelle tournée est en préparation pour novembre. Voilà, avis aux programmateurs, si vous voulez à nouveau accueillir Maculloch en terre française, ça sera possible cet automne. Le Live in Paris est sorti et vous pouvez vous procurer auprès de Marc Mitou, c'est tout simple. Hein, vous allez sur Facebook ou vous contactez le groupe des Barn Guys et puis il n'y a pas de distribution vraiment pour ce disque-là qui comporte 8 titres superbes qui sont enregistrés live, je vous l'ai dit, au Jazz Club Étoile de Méridien à Paris. L'occasion de revenir sur la discographie un petit peu avortée il y a déjà une bonne douzaine d'années par l'Irlandais Rab McCulloch. Voici une reprise de Johnny Hooker qui s'appelle « My Father Was a Jockey ». Told me how to ride.
One in the middle, rock side by side.
C'était en live à Paris à l'automne dernier, Live in Paris au Jazz Club Étoile, Rob McCulloch, donc avec Julien Boisseau, Xavier Cottineau et Marc Mitou derrière. Rob McCulloch, cet album est toujours bien sûr disponible. Il est sorti il y a quelques semaines sous la houlette de Marc Mitou qui le produit. Voilà. Dans quelques minutes, ce sera notre premier invité, Nicolas Tornier, rédacteur-chef du magazine Soulbag, qui fête ses 50 ans. Non pas Nicolas, mais le magazine Soulbag. On en parlera juste après un extrait du dernier sampler. Vous savez que pendant un numéro sur deux, on va dire tous les six mois, il y a un CD 14 titres exclusif qui sort avec le magazine sans augmentation de coût pour les abonnés. La sélection Blues and Soul avec, on en parlera avec Nicolas bien sûr, mais ici c'est Larkin Poe qui a été choisi. Larkin Poe sur un album tout récent, parce qu'à chaque fois ce sont des choses qui viennent de sortir, millésime 2018 ici pour Venom and Faith, mais souvent des millésimes tout frais. Larkin Poe, voici Bleach Blonde Bottle Blues, et on retrouve Nicolas Tornier juste après.
What you gonna do? I said, ooh, child, and what you got? I said, ooh, child, and what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? Shell pink Cadillac, cherry cola, six pack, the pop and fizz, it hits you like a hammer. She is turning heads, weapon grade legs. Got nothing on that. I said, ooh, ooh, child, and what you gonna do? I said, ooh, ooh, child, and what you got? I said, ooh, ooh, child, and what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? How you gonna ride? Feel the fire like a first kiss. Take pity on me. I've been everywhere, seen everything. Now I wanna come clean, y'all. I say what I mean ooh, ooh.
Just say what you mean.
I mean ooh, ooh.
Just say what you mean.
I mean ooh, ooh. Child, and what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? How you gonna ride? Feel the fire like a first kiss. How you gotta ride out? your brother get on it.
Voilà, c'était Larkin Poe pour continuer ce programme dans Sweet Home Chicago, extrait de la section Blues and Soul de Soulbag. Je suis au téléphone avec Nicolas Ternier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marc.
Comment vas-tu ?
Très très bien.
Bon, super. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sweet Home Chicago parce que c'est pas n'importe quel anniversaire, c'est le demi-siècle d'un magazine, le magazine de blues et de la soul depuis 1968, je crois, le plus ancien en Europe, c'est ça ?
Oui, enfin, on doit disputer le titre de plus ancien avec Jefferson en Suède.
Ah ouais, magazine suédois qui existe toujours ?
Oui, qui existe toujours, qui est trimestriel aussi, qui a dû commencer début 68, le premier Soulbag c'est fin 68. Enfin, voilà, c'est quand même la même année, mais oui, on fait Soulbag, c'est un des dinosaures de la presse musicale.
C'est vrai, un des dinosaures qui égale ou qui dépasse tous les autres, on va dire, et qui ne dément pas sa réputation de qualité, j'ai envie de dire, parce que ça fait un demi-siècle que Soulbag continue à s'améliorer. Avec toi, Nicolas, on va évoquer ces 50 dernières années, on va parler aussi, bien sûr, du présent, la nouvelle maquette, les choses qui préoccupent le magazine Soulbag, qu'est-ce qu'on y trouve, et puis l'avenir. On va parler de Jacques Perrin, d'abord, parce que Jacques, c'est quelqu'un que tu connais depuis plusieurs années. C'est le créateur de Soulbag. Est-ce que tu peux nous dresser son portrait en quelques
phrases ? Oui, bien sûr. Jacques, c'est le fondateur vraiment du magazine. C'est lui qui, en 68, a créé d'abord un numéro qui s'appelait Super Soul.
Oui.
C'est un peu l'ancêtre de Soulbag. Il y a eu un seul numéro qui a été financé par les disques Barclay. Donc, c'était dans la foulée de la mort d'Otis Redding, donc qui était un spécial Otis Redding.
Un spécial Otis Redding qui ne devait pas avoir de numéro 2, d'ailleurs, qui n'avait pas forcément vocation à perdurer.
Si Barclay avait poursuivi, avait voulu continuer et qu'il y avait suffisamment de lecteurs pour le faire, ça aurait pu enchaîner, mais finalement, ça s'est arrêté après le numéro 1, mais Jacques n'a pas du tout baissé les bras, au contraire, et c'est à ce moment-là qu'il a fondé Soulbag, donc en décembre 68, sous forme d'un bulletin renéotypé, presque fait maison. Enfin, ça devait être dans la mairie de Bagneux, en région parisienne.
Voilà, avec des petites agrafes, et puis en noir et blanc, bien sûr, au départ. Donc c'est parti.
Oui, voilà, c'est ça.
On appellerait ça un fanzine maintenant, peut-être.
Oui, c'est ça, c'est un bulletin. C'est le comité de liaison des amateurs de rhythm and blues qui s'appelle donc le CLARB, qui est toujours l'association éditrice de Soulbag. C'est à ce moment-là que ça a été fondé, et c'était vraiment, ça réunissait une petite poignée de passionnés guidés par Jacques qui voulait vraiment mettre en lumière tout un pan de la musique populaire afro-américaine qui n'avait ou voire pas du tout de représentation en France, en fait.
C'était pas facile parce que je me souviens que dans les années 70, il y avait une parution qui était un petit peu épisodique, c'est devenu trimestriel assez vite, mais il y a eu quelques trous, en fait, dans le calendrier.
Oui, tout à fait. Alors là, à la base, c'était même une volonté d'être un bulletin mensuel. Ça l'a été quelques fois, mais ça s'est fait. Enfin, Jacques faisait ça en plus de son activité professionnelle. Oui. Il est devenu disquaire assez rapidement, aux fameuses boutiques Boogie à Levallois-Perret.
Ah oui, qui se souvient, Moi, je peux te dire que j'en ai acheté quelques-uns des disques là-bas, effectivement, chez Boogie.
Et donc ça a été longtemps le QG de Soulbag. Jacques faisait ça en parallèle, donc de son activité de disquaire. Mais au fil des années, ça a pu se stabiliser, notamment... surtout à la fin des années 80, début 90. Et il y a vraiment eu des parutions régulières, trimestrielles.
Exactement. Et puis ensuite, Soulbag est passé à la couleur. Ça n'a pas été automatique et ça représentait un réel coup. Ça continue à l'être, mais bon, c'est pas forcément évident pour un magazine qui a au départ quelques dizaines, puis quelques centaines d'abonnés, maintenant quelques milliers d'abonnés.
Oui, voilà. Bah, après, ça s'est fait au fil du temps, mais c'est comme au départ, c'était vraiment... C'était vraiment fait maison, tapé à la machine et renéotypé. Plus le lectorat s'est épaissi, plus il y a eu de moyens pour faire appel à la PAO et après à un graphiste, etc. Enfin, ça a mis un peu de temps, mais ça a évolué. Toujours dans le bon sens.
Alors au niveau de la ligne éditoriale, au départ, moi, moi je peux je peux en témoigner, j'ai ça sous les yeux. Le premier numéro de Soulbag, il y a B.B. King en couverture. Le dernier, c'est-à-dire le numéro 234 pour avril-mai-juin 2019, c'est également B.B. King en couverture. Il s'est passé plein de choses entre deux, mais la ligne éditoriale de Soulbag, à la fin des années 60 et puis dans les années 70, c'était quoi? C'était le blues, la soul, dans toutes ses acceptions?
Les deux grands axes majeurs, c'est blues et soul. De toute façon, ça reste vraiment nos deux axes prioritaires. Au moment de la création, c'était plus les années soul, comme je disais, avec dans le sillage d'Otis Redding à la fin des années 60. Donc, il y avait plus des unes qui étaient soul. Mais très, très rapidement, ça s'est centré sur le blues. Dans les années 70, 80, 90, notamment, il y avait énormément de couvertures blues. C'était plus blues que soul, mais il y a toujours eu, en fait, au sein du magazine, une volonté de parler de musique cousine, on va dire, tellement proche que son blues et soul, en étendant sur le funk, le gospel, le rhythm and blues, même le R&B contemporain.
Elsa et Deco et le jazz aussi un petit peu.
Oui, bien sûr, oui. Ouais. C'est la famille est assez large, mais on essaie de toujours montrer les connexions qu'il y a entre tous ces genres qu'il faut surtout pas cloisonner entre eux, ce serait vraiment dommage.
Et ça, c'est un souci qui perdure 50 ans après. Nicolas Turnier, ça fait quelques années maintenant que tu es rédac chef. Depuis combien de temps depuis combien de temps tu as entendu parler de Soulbag, et puis depuis combien de temps tu es rentré dans l'équipe, en fait?
Soulbag, j'en ai entendu parler quand je me suis vraiment intéressé au blues. Forcément, on tombe dessus assez rapidement, oui. Au début des années 2000. J'ai rejoint l'équipe en 2003, il me semble, à peu près, dans ces années-là. Et après, j'ai pris la succession de Jacques en 2007, au poste de rédacteur en chef.
Comment ça s'est opéré? Jacques, à ce moment-là, avait envie de passer la main. Il fait toujours partie de l'équipe, mais...
Oui, bien sûr, oui. Bah oui, il a, après des années à diriger le magazine, oui, il a voulu prendre sa retraite. Enfin, il a d'abord pris sa retraite de son métier de disquaire quand Bouvier a fermé en 2005. Mm-hmm. Et ensuite, il a voulu passer la main pour parce que c'est quand même un travail important. Donc au moment où il a voulu passer la main. Moi, j'avais rejoint l'équipe depuis quelques années. Ça a pu se faire comme ça, une transition sur plusieurs mois. Et il est toujours dans l'équipe.
Il est toujours dans l'équipe. Rédacteur en chef, Nicolas Turnier. Directeur de la publication, maintenant, c'est Frédéric Adrian. Lui aussi fait partie de l'équipe depuis pas mal de temps. Et puis, il y a, allez, on va dire, une trentaine de collaborateurs. Ça a toujours été à peu près le même nombre. Bien sûr, ça a évolué. Est-ce que tu as une idée du nombre de collaborateurs qui, en tout, depuis 1968, ont participé à Soulbag?
Oh, c'est une non, ça, je ne sais pas, mais ça doit faire plusieurs dizaines, évidemment. Aujourd'hui, on est entre 20 et 25, je dirais, peut-être une trentaine, avec aussi les photographes qu'il ne faut pas oublier. Il y en a qui sont là depuis le tout début, donc ça fait 50 ans. Il y en a qui nous ont rejoints il y a quelques années seulement. Donc l'équipe a un peu bougé, évidemment, elle s'est renouvelée, mais on essaye, avec les sensibilités de chacun et les goûts de chacun, de couvrir le maximum de choses possibles dans les musiques qui nous font vraiment vibrer aujourd'hui.
Ouais. On peut citer quelques noms parmi ceux qui ont été les fondateurs et puis les piliers au départ. Moi, je voudrais parler de Gérard Herzav, de Kurt Mohr, Jacques Demaître. On peut citer également Franck Goldwasser, hein, qui a fait partie de l'équipe.
Oui, bien sûr.
Des gens que tu as pu rencontrer, toi, personnellement, Nicolas?
Pas tous rencontrés, j'ai échangé avec tous à distance, où il y en a que je connais, que j'ai rencontré. Mais on peut commencer par Kurt Mohr, parce que c'est lui, oui, vraiment le père spirituel, si je puis dire, du magazine. C'est lui qui avait fondé une rubrique au sein de Rock & Folk qui s'appelait Soulbag, justement pour parler de soul et de blues. Des musiques qui n'étaient pas vraiment traitées dans la presse rock à l'époque.
Ouais.
Et c'est de cette rubrique-là qu'est né le magazine. Donc c'est vraiment lui qui était plus âgé que Jacques et que les autres membres de l'équipe. C'est lui qui était un passionné de discographie, notamment, qui enquêtait auprès des musiciens pour savoir qui avait joué sur quel disque. C'est vraiment un grand passionné qui nous a quitté il y a quelques années.
C'est vrai que c'est un travail de fourmi aussi. Tu parles de discographie, il y a des recherches biographiques qui sont faites par des collaborateurs, toujours encore maintenant. C'est un boulot énorme.
D'autant plus, oui, à l'époque, sans Internet. Avec le peu d'informations qu'il y avait, voire rien du tout sur les pochettes des disques, il y avait matière à mener des enquêtes pour savoir qui jouait en fait sur les disques.
Tu parlais de Courte Mort, on peut citer également Gérard Herzhaf, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur le blues, et puis la country music,
bien sûr,
et puis
d'autres... On ne le présente plus, Gérard, qui a écrit l'encyclopédie du blues, entre autres, et qui a énormément collaboré à Soulbag à travers des articles, des interviews, des rubriques chroniques de disques. Enfin, c'est une des grandes plumes du magazine.
Alors, les gens qui ont écrit et qui n'écrivent plus, et les gens qui sont remplacés, voilà, que au fil des années, il y a des jeunes aussi dans l'équipe. Tu en fais partie, Nicolas, toujours.
Oui.
Mais on parle des fondateurs, on parle des gens qui ont été les piliers du magazine. C'est un magazine qui continue d'évoluer, que ce soit dans ses collaborateurs, mais également sur la forme, parce qu'il y a encore eu récemment un changement de maquette. On peut en parler peut-être de ça, Nicolas.
Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est un changement majeur. Lors du passage en kiosque, Soulbag n'était pas diffusé en kiosque avant 2009. C'était essentiellement sur abonnement et chez des disquaires.
Ouais.
Mais en 2009, on est passé en kiosque, donc on a refait une nouvelle maquette à ce moment-là. Depuis, elle a sensiblement évolué. On a un graphiste, Olivier Linden, qui s'en occupe depuis une dizaine d'années et qui a fait beaucoup, beaucoup évoluer, qui avait apporté un peu sa patte, mais il n'avait jamais refondu complètement comme il l'a fait là. Donc là, c'était pour le cinquantenaire, on s'est dit qu'on allait fêter ça en donnant un coup de frais à l'ensemble de la maquette. Donc on est reparti de zéro. Olivier a tout refait. On en a profité pour créer des nouvelles rubriques, pour aérer un peu la. Plus confortable à lire, tout en gardant le contenu assez fourni. On est sur un 100 pages avec peu d'annonceurs quand même, donc c'est assez dense.
Voilà, assez dense en quantité d'infos, et puis ça part tous azimuts sur les chroniques de disques, sur les interviews, sur les articles de fond. Est-ce que je peux me permettre, Nicolas, de te citer?
Oui.
Alors, tous les trois mois, donc tu commets un éditorial. Je voudrais simplement le lire à nos auditeurs pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ce que c'est Soulbag, pour les quelques rares qui ne connaîtraient pas encore. Signé Nicolas Turnier, rédacteur-chef, bien sûr. 50 ans après, voilà le titre. Des kiosques qui ferment, des festivals qui luttent, des labels et des tourneurs qui jettent l'éponge ou passent la main. Et Soulbag qui souffle 50 bougies, chercher l'erreur, ou plutôt constater la belle anomalie. Quel chemin parcouru depuis ce premier numéro fait maison fin 1968 par Jacques Perrin. Deux agrafes, un paquet de feuilles et beaucoup de cœur dedans. Au fond, la recette est la même. On s'est juste permis quelques mutations, dont celle que vous tenez entre les mains et qui n'est pas des moindres. C'est la première fois que Olivier Linden, notre graphiste depuis bientôt 10 ans, refond la maquette du sol au plafond, et ça change. À commencer par un meilleur confort de lecture au sein d'une mise en page qui respire davantage. C'était aussi l'occasion de créer de nouvelles rubriques, d'en revisiter d'autres et d'augmenter la pagination. 100 pages flambant neuves que vous aurez, je l'espère, plaisir à parcourir. Et comme on n'a pas tous les jours un demi-siècle, Soulbag en profite aussi pour changer son logo et s'afficher fièrement sur des t-shirts et des sacs, évidemment, hein, Soulbag. De nouvelles bonnes raisons de nous manifester votre soutien en faisant résonner notre nom autour de vous. Car soyons clairs, ce n'est pas pour rien que nous avons dû augmenter nos tarifs, nous qui sommes toujours totalement indépendants, notre équilibre est toujours fragile. Si Soulbag existe, c'est bien entendu grâce à son équipe de valeureux passionnés, mais aussi et surtout grâce à vous qui le lisez, qui l'achetez, qui en parlez, vous qui vous abonnez. Ça, pour nous, ça change tout. Vive le circuit court, plus court que jamais aujourd'hui avec notre tout nouveau site qui dispose enfin d'une boutique en ligne. Du changement donc, mais un magazine toujours animé par la même raison. 234 épisodes plus tard, en France, on parle trop peu ou trop mal de tous ces artistes qui nous font vibrer 50 ans que ça dure. Voilà. Et c'est vrai, Nicolas, ce que tu dis, je suis d'accord du début à la fin, bien entendu, mais par rapport à donc ces artistes qui sont défendus par Soulbag, il n'y a pas une couverture médiatique tellement étendue, alors que tout le monde sait que le blues est la musique fondatrice de toutes les autres, toutes celles qui viennent des États-Unis.
Oui, bah après ça a toujours été un peu le cas. Après, dans les années 90, ça avait quand même plus le vent en poupe, on en parlait un peu plus. Là, c'est la soul qui est un peu plus médiatisée depuis les années, le milieu des années 2000, disons. Mais après, oui, je demande pas à ce que tous les magazines en parlent. Il y a évidemment plein d'autres musiques qui sont passionnantes et qui méritent d'être découvertes. Mais souvent, il y a quand même le constat de, quand on parle de blues, notamment, c'est soit un peu avec un peu de condescendance ou avec moins d'attention, moins de soins apportés aux artistes que d'autres styles. Donc, on a toujours notre raison d'être et de publier ce qu'on a envie de défendre.
Nicolas, j'ai l'impression que pour certains médias, le blues, c'est un sous-genre du jazz. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une idée préconçue?
Non, c'est possible, oui. C'est sûrement mis dans la case... Dans cette case-là, musique est peut-être un peu poussiéreuse, musique du passé. C'est peut-être pour ça que les gens l'associent rapidement au jazz, ou je sais pas, alors que le jazz est extrêmement vivant aujourd'hui, comme le blues. Même si de nombreuses grandes figures disparaissent évidemment, parce que c'est des générations assez anciennes, mais oui. Mais il y a évidemment plein de choses, hein, comme le titre de Larkin Poe qu'on a entendu tout à l'heure. Enfin, c'est deux jeunes américaines.
Qui n'est absolument pas poussiéreux, on est d'accord, Nicolas?
Non, voilà, c'est tout sauf ça, et ça reste très, très blues dans la grammaire utilisée. Quoi. Donc, c'est une belle preuve de la vitalité de cette musique. Alors, qui n'est pas triste, qui n'est pas vieille, qui n'est pas déprimante. C'est
oui.
Un cliché qui lui colle à la peau, mais c'est loin de se limiter à ça.
Ça, on le sait quand on en écoute. Hein. De toute façon, à partir du moment où on n'a pas goûté, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas ça. C'est ce qu'on dit aux petits-enfants. On est d'accord. dans ce magazine numéro 234 qui célèbre les 50 années de l'existence de Soulbag, il y a un petit historique comme ça où effectivement on parle de Super Soul qui était sorti en mars 68, du premier numéro en décembre, et du passage à la couleur, etc. Et tu signalais cette date de 2009 qui voit Soulbag pour la première fois en kiosque. C'était le numéro avec Raphaël Sadik en couverture. Est-ce que ça a permis un boom des ventes du magazine à ce moment-là?
Ah oui, évidemment, c'est à partir du moment où on était disponible en kiosque, on a, même si on a toujours une base abonnée assez copieuse et très fidèle, ça c'est une chose, mais l'exposition en kiosque, ça reste. Mais même si on est arrivé au moment où le secteur commençait à gentiment s'écrouler, nous on a ça a largement plus que doublé le lectorat à ce moment-là, donc c'est vraiment une étape essentielle dans l'évolution du magazine.
On voit des chutes de vente de toute la presse papier, parce que là, on est dans les années 2010-2020, et effectivement, tous les ans, je pense que ce soit les indépendants et ceux qui dépendent des grands patrons de presse, ben, voient leurs chiffres baisser. Il y a également les disques qui voient baisser leur vente au profit des téléchargements, plus ou moins légaux. Et malgré tout, Soulbag continue de se vendre, et malgré tout, Soulbag continue de proposer un CD sampler. On peut en parler de ce CD, parce que Ça fait déjà quelques années que, je crois, une fois sur deux, c'est-à-dire deux fois par an, il y a un disque qui arrive avec des titres, pas inédits, mais des choses qui sont en train de sortir, pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux gens, non?
Oui, bien sûr, maintenant, c'était le 39e, je crois.
39e, oui, c'est ça.
Au départ, c'était vraiment à tous les numéros qu'on faisait ça, mais ça a un coût quand même important, donc on a dû réduire la voilure il y a quelques années et le faire plus qu'un numéro sur deux, donc chaque semestre.
Donc ça vient pour le numéro de avril, pardon, et le numéro d'octobre, en fait. Hein.
Voilà, c'est ça. Là, il y en avait un dans le numéro du cinquantenaire. Et on fait un panel de piocher dans les nouveautés vraiment qui nous ont le plus conquis. Et du coup, c'est un choix vraiment de la... Un choix qui correspond à l'ADN de Soulbag. On est à la fois dans le blues, dans la soul. Là, il y avait le titre de Larkin Poe, c'est celui qui ouvre le sampler de cette émission-là. Et souvent, on sait que c'est le lectorat est quand même assez attaché. Les abonnés, c'est réservé aux abonnés.
C'est réservé aux abonnés, parce que on va le rappeler, Soulbag est disponible en kiosque, mais vous aurez le magazine seul pour tous les trois mois la somme de 7 euros. Mais si vous vous abonnez, je crois qu'il n'y a pas de surcoût, 7 x 4, 28, avec deux disques quand même dans l'année. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. C'est, ça reste,
alors, c'est un bonus, c'est comment c'est, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que ça a été conçu au départ? C'était histoire de donner un éclairage musical plus prégnant?
Oui, voilà, mais... c'était accompagné, ça a dû se faire en 2005, 2006, je ne sais plus précisément, mais c'était oui, une volonté de plutôt que d'offrir un disque en partenariat avec un label, comme c'est souvent le cas, enfin, quelque chose qui va pas forcément plaire au lecteur, parce que ça va être un artiste précis. Là, on voulait vraiment, la volonté, c'était vraiment de faire un choix éditorial en mettant en avant ce dont on parle au fil des pages, pour mettre un peu de bande son sur tout ça.
Ça a toujours un rapport avec la cote des disques. Il y a toujours le pied, 4 étoiles, etc. Est-ce que les disques qui figurent dans le sampler sont toujours parmi les favoris des chroniqueurs?
Oui, généralement, bien sûr, oui. Ça reste quand même le haut du panier. Enfin, oui, comme ça fait que 14 titres, en plus maintenant 14 titres sur un semestre, c'est quand même très très peu.
Oui.
Donc on choisit la crème de la crème. Et c'est aussi en fonction des autorisations qu'on peut avoir ou non des labels. On peut pas toujours mettre tout ce qu'on veut, mais il y a largement... Moi, quand j'établis une première liste pour savoir ce qu'on va mettre au final dedans, j'en ai largement plus que 14, donc après j'affine.
Ouais. Et donc à chaque fois, bien sûr, il faut faire la démarche de demander aux artistes ou aux labels l'autorisation, bien sûr, de diffuser ça, d'être sur...
Oui, bien sûr, oui.
Comment est-ce qu'ils le prennent, d'une manière générale? Comme un bonus ou comme une concurrence?
Non, bien sûr, ils sont ravis de le faire. Enfin, pour ceux qui acceptent, c'est une exposition. Après, on sélectionne aussi des disques qui ne sont pas forcément bien distribués en France, des autoproductions, qui sont américaines, qui sont évidemment facilement trouvables sur le net, mais qui ont quand même peu de visibilité dans les bacs.
Et puis aussi des artistes français. Bon, il n'y en a pas dans le dernier CD Sampler, mais il y en a très régulièrement.
Oui, bien sûr, oui, il y en a aussi. Bah, après, c'est un problème de place. J'aimerais pouvoir en mettre plus. On doit se limiter à 14 par tous les 6 mois, donc c'est vraiment le choix est souvent cornélien.
On va rappeler quand même que dans Soulbag, tous les 3 mois, il y a entre 180 et 200 chroniques de disques. Ça représente donc presque 800 par an, et simplement retenir 28 titres, ça paraît être un peu la crème de la crème parmi ceux qui acceptent la démarche, bien sûr. Mais je pense qu'ils doivent quand même être assez rares à refuser.
Les refus, c'est que quand on s'adresse à des majors ou des maisons de disques dont la politique ne veulent pas céder de titres. C'est plutôt, ils n'ont pas envie de s'embêter avec de la paperasse, souvent.
C'est pour ça qu'il n'y a jamais Eric Clapton dedans, quoi, par exemple.
Oui, non, peut-être qu'il a peut-être pas besoin de nous non plus.
C'est clair. Ouais. Alors, on va revenir sur ces 50 ans, et il y a une rubrique qui a été créée pour l'occasion. Ça s'appelle la bande-son du cinquantenaire de Soulbag, avec le choix d'un artiste par année, de 1968 pour B.B. King jusqu'à Del Grey pour 2018. Comment s'est opéré ce choix, là encore, Nicolas?
Eh bien, là encore, c'était un bon casse-tête.
J'imagine.
Parce que résumer une année à un titre,
Oui, parce que c'est même pas un album, c'est juste une chanson.
Oui, non, là, c'est vraiment une playlist, comme vraiment la bande son très. La sélection est très très réduite, mais encore une fois, il n'y avait aucune volonté d'exhaustivité, évidemment, à travers cet exercice-là. Là, c'était essayer de refléter l'ADN du magazine à travers des artistes qui chaque année nous ont vraiment marqués. Voilà, que ce soit, on commence par B.B. King en 68, on arrive à Del Grey 50 ans après, et c'est à chaque fois des titres ou des artistes qui comptent beaucoup pour la rédaction. La sélection était assez compliquée à faire, parce qu'on a évidemment pas fait de répétition sur les 50 années. Il y avait plein d'options possibles chaque fois, et voilà, bah là c'était on a essayé de faire un panel assez représentatif pour que ce soit en soul, en blues, voilà.
Est-ce que tu entends, Nicolas, ce qui passe derrière?
Oui.
Alors, est-ce que tu reconnais? C'est du direct, hein?
Ouais, ça a l'air d'être du B.B. King, quand même.
Ça a l'air d'être du B.B. King. Ça a l'odeur du B.B. King, ça a la couleur du B.B. King, mais ça n'est pas du B.B. King. Je te laisse écouter davantage.
the picture show. I ask Joanne. She said I don't even know.
Voilà, ça fait partie de la bande son du cinquantenaire de Soulbag. C'est un garçon qui nous a quittés il y a une bonne vingtaine d'années maintenant et qui, je crois, a été, on va dire, quelqu'un qui compte hein, pour Soulbag. Comment ?
C'est
Sun Seas. Ah, c'est marrant, oui, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a quelques accents de guitare qui font effectivement penser à Sun Seas. Voilà, c'est un garçon qui a vécu en France pendant des années.
Ah oui, non.
Tu disais, Nicolas ?
Luther Allison,
voilà, Luther Allison, c'est Bad Love, hein, bah, ce fameux titre qui monte. Je ne résiste pas au plaisir hein, de ce titre-là, qui est un de mes favoris, je dois te l'avouer.
C'est un grand chef-d'œuvre par un Louis, c'est vrai que c'est
Cool. Nicolas, parmi ces 50 artistes, 50 chansons qui sont là, quels sont ceux qui t'ont vraiment fait vibrer? Alors, je ne parle pas de la dernière, Maud Jody de Del Grey, parce que c'est toi qui la chronique. Donc, évidemment, ça t'a plus que plu. Mais parmi ceux les plus anciens, quels sont les artistes que tu retiens de cette sélection? Toi, personnellement, ton top 5, on va dire.
Ouais, c'est dur de choisir, mais je mettrais, pour rester dans les guitaristes exceptionnels qui tordent les notes là comme Luther Allison ou Sun Seas, je pense que c'était Sun Seas ou Billy King. Je citerai évidemment Albert King.
Oui.
Surtout dans les années 70, moi j'ai
les années Stax quoi.
Oui, enfin même avant, mais les années Stax, je trouve ça vraiment exceptionnel la façon dont ça se mêle avec les cuirs, avec la soul et toujours ce style inimitable de guitare qui a tant influencé ses successeurs. Après oui, c'est je pourrais citer Buddy Guy dans la lignée aussi là, pour rester avec Sun Seas et Luther Allison sur les côtés de Chicago.
Voilà. Ça,
c'est aussi dans les artistes qui m'ont vraiment happé au début où j'ai commencé à m'intéresser à cette musique là et ça reste toujours un plaisir de réécouter ça qu'est-ce qu'il faut, qui je pourrais citer encore, Curtis Mayfield pour le côté soul, c'est évidemment un nom qui me tient beaucoup à cœur. Millie Jackson qui est moins connue que les noms qu'on vient de citer, mais qui est une chanteuse soul qui vient d'Atlanta, enfin, qui est toujours vivante, toujours active. Enfin, peut-être moins active maintenant ces dernières années, mais une grande chanteuse soul qui a pas la langue dans sa poche, qui a vraiment fait des albums exceptionnels. Je sais pas, j'en suis à combien, il faut encore.
Moi je crois qu'on a quasiment fait le plein. Encore un, si tu
peut-être
veux.
Peut-être aussi un Guitar Watson aussi. J'aime beaucoup Junior Guitar Watson. Qui est un de ceux qui a réussi à emmener, il a commencé vraiment dans le blues, il a fait après un virage très funk, toujours en gardant ce vocabulaire blues à la guitare et beaucoup d'humour dans son style, dans ses compos.
Bon, belle sélection, Nicolas. Voilà, de toute façon, Soulbag, ça reste la meilleure manière, à mon avis, hein, de conjuguer le blues et la soul. Et puis, par exemple, un artiste comme Albert King avec ce fabuleux I'll play the blues for you. Tiens, allez, quelques secondes pour le plaisir, si tu veux bien, Nicolas.
Ah, okay.
Come on in. You might run across some of your.
Voilà, une rubrique, la bande-son du cinquantenaire de Soulbag qui permet de voyager au fil de toutes ces années, 1968-2018. Ça continue, l'aventure continue avec ce numéro 234 de Soulbag. Là, on était en 72, I'll Play the Blues for You, un disque que personnellement j'ai pu découvrir quoi, une dizaine d'années après sa sortie, et ça a été une grosse baffe, on va dire. C'est une grosse claque. Je partage en grande partie tes goûts, Nicolas, pour cette sélection. J'ai envie de dire, comment faire pour tout pour tout s'emparer de tout ce que propose Soulbag, parce que là encore, on l'a dit tout à l'heure, entre 180 et 200 nouveautés et rééditions qui arrivent chaque trimestre sous la plume des chroniqueurs. Est-ce que tous les albums qui sont reçus par Soulbag sont chroniqués déjà?
Oui, bien sûr que non. Non, là, on en reçoit au moins le double, voire plus.
Waouh.
On en reçoit. On peut parler de crise du disque, mais la production est quand même toujours assez impressionnante. Il y a énormément de choses qui sortent. Après, évidemment, on nous envoie des choses qui sont pas pour nous. J'en parle même pas. Mais après, on fait quand même. Oui, il y a une sélection. Une sélection assez importante, même si au final, on se retrouve avec une belle quantité de disques. Il y a beaucoup de choses dont on peut pas parler faute de place, donc on va parler de ce qui nous plaît le plus.
Alors ça veut dire qu'il faut écouter tout quand même. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'écouter 500-600 albums tous les trimestres au fil de leur arrivée?
On prend le temps. Moi je prends le temps. J'écoute évidemment pas tout. Hein. Je peux pas écouter tout en entier, mais maintenant je peux quand même assez bien cibler. Savoir quel disque mérite le détour.
Oui.
Mais je prends la peine d'ouvrir chaque disque qu'on nous envoie et de jeter une oreille plus ou moins longtemps en fonction de la qualité. Mais oui, ça fait un paquet de choses à écouter, effectivement, mais avec plaisir.
Et ensuite, ce qui te revient aussi, parce que ça, c'est aussi ton boulot, c'est la répartition entre les différents chroniqueurs. Chacun a des desiderata, forcément. Ensuite, il faut séparer tout le trésor trimestriel, j'ai envie de dire. Les 190 disques partent dans chez les 30 chroniqueurs. Ça se passe comment, ce travail?
Oui, ça c'est comme le but, c'est quand même que les collaborateurs prennent plaisir aussi à le faire. Enfin, je sais quel genre, quel disque, quel artiste chacun préfère. Je leur soumets une liste des différents disques qui sont en liste pour les pages chroniques, et puis après je répartis ça en fonction des envies de chacun, des goûts de chacun, pour que ce soit avec plaisir qu'ils fassent ça, quoi.
Bien sûr. Voilà, en égrenant toutes les tâches qui incombent au rédac chef, on se rend compte que sur un trimestre d'existence, entre le moment où la revue commence à maturer et où il est sorti, on pense déjà au suivant. J'imagine, ça y est, pour le 235e, les disques sont presque sous enveloppe. Là, il va falloir penser déjà au numéro d'été. Le travail de rédac chef, c'est un travail de tous les jours, c'est pas du 39 heures ou du 35 heures par semaine. Ça représente quelle somme de travail, Nicolas?
Si, ça fait un bon temps plein.
Oui, quand même. Ouais.
Comme on est, moi je suis le seul permanent de l'association. Je coordonne tout ça. Je saurais pas te chiffrer exactement le temps passé sur la partie vraiment rédaction en chef pour la mise en place des sommaires, mais j'ai toujours un œil sur les numéros à venir. Là, le prochain, on va faire quelque chose sur Mavis Staples, notamment. Il y a pas mal de choses dans les tuyaux. Encore un peu tôt pour tout dévoiler, mais...
Mavis Staples, qui ne fête pas ses 50 ans, mais ses 80 ans cette année, et qui continue sa carrière scénique et discographique, voilà, qui est un bel exemple de longévité, comme des gens comme Buddy Guy, enfin voilà, il y en a quelques-uns. Et puis, il y a du son neuf, hein, on entend derrière nous Maud Jody de Del Grey, qui en fait est le choix de cette année 2018, qui sont des Français, hein, il n'y en a pas beaucoup dans cette sélection.
Oui, ça c'est un peu comme tout à l'heure par rapport au sampler, quand on réduit le choix à ce point-là, on peut difficilement satisfaire mettre tout ce qu'on voudrait, mais Del Grey, ouais, c'est vraiment été un grand coup de cœur de l'année dernière, qui est un groupe basé d'une partie de la région parisienne en fait. Le leader Pascal Danay a des origines guadeloupéennes.
Oui, voilà.
Il a reconnecté au blues via le créole, via une pensée tournée vers ses ancêtres. Ils ont trouvé une formule magique à trois, avec un sousaphone à la place de la basse, une batterie et un,
Ah oui, quelque chose de magique et très visuel sur scène en tout cas. Et...
Ouais, c'est très puissant, très taillé pour la scène, et puis à la fois le disque est vraiment grande qualité. Ils ont mûri ça des années sur scène et au fil de nombreux concerts avant de mettre ça en studio.
Ouais. Nicolas Ternier, peut-être deux questions avant qu'on se sépare. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le numéro 235 de Soulbag ? Est-ce que tu connais déjà la couverture, les principaux interviewés, les principaux sujets, les principaux dossiers ?
C'est encore trop tôt pour le dire, mais comme je disais, il y aura un long papier sur Mavis Staples,
voilà,
que j'ai pu interviewer il y a quelques dizaines de jours, qui sera un superbe album produit par Ben Harper.
Ah d'accord.
Un nouvel album en mai qui une fois de plus, c'est une grande réussite.
Elle n'arrête pas d'enregistrer, je crois que ça va être le troisième en deux ans, quelque chose comme ça.
Enfin... elle a sorti un magnifique live cette année, il y a à peine quelques mois, un live à Londres qui est exceptionnel. Et là, elle enchaîne sur un nouveau projet studio avec Ben Harper qui est vraiment très, très réussi. C'est assez impressionnant de voir
elle sait
s'entourer de gens qui l'aime, qui adore sa musique et qui lui font du coup d'humain pour elle.
Il va falloir interviewer Ben Harper, du coup, peut-être aussi Rick Holmstrom, son guitariste à Mavis Staples.
Oui, Rick Holmstrom, Ben Harper peut-être, mais c'est peut-être qu'il n'est peut-être pas aussi accessible qu'on le souhaite, mais Rick Holmstrom, oui, c'est prévu.
Ouais, très bien. D'autres choses pour ce prochain numéro, Nicolas ?
Oui, il y a plein de choses de quoi je peux te parler tout de suite. On va faire un focus sur un label de blues qui s'appelle Big Tone Records, qui est dirigé par Big John Atkinson.
D'accord.
Un excellent guitariste, chanteur, qui ont une volonté de vraiment faire un... Enfin, ils ont un studio tout analogique. Ils font des super productions. Là, on avait parlé récemment du Atomic Road King, qui est un titre sur le sampler du numéro en cours, là. C'est un très très chouette disque. Et là, ils ont plein de projets dans les studios. Ils vont faire un truc avec James Harman. Il y a un album solo de Atkinson qui va sortir. C'est blues énorme. Enfin, très, c'est pas que c'est roots, mais c'est capté vraiment comme il faut. Ça sonne frais, c'est vraiment exceptionnel. Donc du coup, on va faire un truc sur ça, un sujet sur lui et sur son label.
Voilà, et toujours d'une manière générale, j'ai envie de dire, Nicolas, le présent et l'avenir du blues qui figurera dans les prochains numéros de Soulbag, parce que c'est une musique vivante, c'est comme notre langue, c'est comme nous. On avance, on continue à penser au passé, mais on prépare l'avenir, et je crois que c'est ce que Soulbag fait.
Oui, ça c'est vraiment le moteur. Enfin, on est...